AFM, le journal. Fridolin Wambombo.
Bonjour à toutes et à tous, le journal Les Titres. Célébration ce jour de la Journée mondiale de l'environnement, c'est autour du thème combattant la pollution plastique. Dans l'Ananamambiri, c'est la lutte contre la gestion de l'humeur qui bat son plein. La MINUSCA vient d'organiser un atelier de sensibilisation en faveur des services déconcentrés de l'État, les autorités à la base ainsi que les forces de sécurité intérieure. Le gouvernement s'organise avec les partenaires pour venir en aide aussi aux populations du 6e arrondissement victimes de la dernière pluie diluvienne. Et puis en sport basketball, c'est l'incertitude qui plane sur le départ des fauves pour le stage bloqué de Tunisie. Le gouvernement n'a pas encore décaissé les moyens à la fédération.
Vira FM.
Combattant la pollution plastique, c'est autour de ce thème que le monde célèbre ce 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. La République centrafricaine, pays qui subit aussi des conséquences de ces déchets plastiques, l'heure est à la prise de conscience et dans la perspective d'interdire purement et simplement ces produits dans le pays. On en parle avec vous, Samuel Bogoto.
La pollution plastique affecte l'environnement, notamment la faune marine, et menace la santé humaine et animale. C'est ce qui justifie ce thème selon une source proche du ministère centrafricain de l'environnement. Pour la société civile œuvrant dans le domaine, on pense déjà au recyclage de ces déchets. Phénomène Anicette Bia, coordonnatrice de l'ONG Femmes et Environnement Batabaco.
Nous protégeons l'environnement urbain et l'environnement état naturel. État naturel, ce qui voudrait dire que ces sachets-là, si on ne fait pas attention au niveau naturel, les bêtes sauvages peuvent en consommer et la digestion leur sera difficile. Au niveau urbain, vous voyez un peu tous ces déchets jetés par-ci, par-là, alors que c'est des choses qu'on devait faire le ramassage pour les transformer peut-être en paniers et autres choses bien utilisées.
Le gouvernement veut mener un combat sans merci contre ce phénomène de plastique, mais est pour l'instant limité dans ses actions. Ralph Mercier Degué Nambona est le directeur général de l'environnement.
Le gouvernement a instruit le ministère en charge de l'environnement de prendre les dispositions pour arrêter ce fléau. Et donc, par lettre de mission, le département a mis en place un comité interministériel qui a travaillé d'arrache-pied pour sortir un projet de loi qui a déjà été approuvé par le Conseil des ministres. Le projet de loi est maintenant sur la table de l'Assemblée nationale. Si c'est approuvé, d'ici là, certainement, on va interdire les sachets plastiques comme au Tchad, au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique.
Dans la capitale centrafricaine, plusieurs activités sont programmées, parmi lesquelles une compétition pour primer la meilleure municipalité ramasseuse des plastiques.
Samuel Bogoto sur Guira FM, et puis mise en place d'un mécanisme de gestion de la rumeur suitée pour prévenir ou gérer la rumeur dans la Ananamambiri. C'est ce qui ressort d'un atelier de sensibilisation sur la gestion de rumeur en faveur des services déconcentrés de l'État, les autorités à la base ainsi que les forces de sécurité intérieure. Nestor Dikoumana a suivi cet atelier pour nous. Reportage.
Cet atelier devait être un cadre de réflexion sur les causes de la rumeur, ses canaux de propagation, ses conséquences, ainsi que les mécanismes à mettre en place pour prévenir la rumeur en vue de la préservation de la paix et de la quiétude de la population. C'est en tout cas l'avis de Béatrice Nibogora, responsable de l'information publique au bureau de la MINUSCA Bois pour le secteur ouest, qui soutient par ailleurs que la rumeur a été le plus souvent une source d'insécurité dans la Ananamambiri.
Ici dans la Ananamambiri, les rumeurs concernant des attaques par des groupes armés ont plusieurs fois provoqué des peurs au sein de la population, allant jusqu'à être à l'origine des déplacements des populations, mettant ainsi les victimes, majoritairement des femmes et des enfants, dans des situations de précarité.
Lazare Nambena, président de la délégation spéciale de Boire, insiste quant à lui sur le rôle des autorités à la base dans la gestion de la rumeur.
Par exemple, les chefs de quartier, les chefs de groupe. Leur responsabilité, c'est de recueillir les renseignements, ces rumeurs, et de les gérer. Il faut les acheminer. Nous avons avec nous les forces publiques, la police, la gendarmerie qui sont à nos côtés pour nous épauler dans ce sens.
Daniel Sogora, expert en droits de l'homme, revient ici sur le mécanisme de gestion de la rumeur qu'il a proposé à ses autorités.
Alors nous avons proposé un mécanisme à deux volets. Le premier volet concerne la vérification de la rumeur si elle est déjà répandue. Et aussi, dans ce volet, si la rumeur n'est pas encore répandue, est sur le point d'être répandue, il faut un mécanisme pour anticiper sur la propagation de la fausse rumeur. Dans le deuxième volet, il faut informer la population sur les résultats de l'investigation. Parce qu'une rumeur, c'est une information qui n'est pas encore vérifiée. Mais dans les deux cas, il s'agit de rassurer la population pour qu'elle ne cède pas à la panique.
Ces autorités recommandent la mise en place d'un mécanisme préfectoral de gestion de la rumeur, un mécanisme qui serait doté des moyens de communication, ainsi que la mise à contribution des radios communautaires de la place pour la sensibilisation de la population. Voir Nestor Ndukumana, Gura FM.
Gura FM.
La suite de cette édition, le ministre de la Santé publique, Pierre Sompsi, a présenté hier le bilan de sa participation à la dernière Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Cette restitution a été faite devant la presse à Bangui. Selon le membre du gouvernement, la situation sanitaire en République centrafricaine a été une préoccupation lors de cette rencontre internationale. Beaucoup de projets ont été donc évoqués avec les partenaires. Écoutons un extrait du ministre Pierre Sompsi, des propos recueillis par Gladys Ilionor Guimari.
Les principales résolutions auxquelles les travaux de cette Assemblée mondiale ont abouti portent sur la santé numérique, la nécessité de digitaliser la gestion du système de santé, la nécessité de rendre disponibles aux populations des antivenins pour prévenir la mort due aux morsures de serpent. Et c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je partage avec la population centrafricaine et les partenaires de Centrafrique que certaines études qui ont contribué à cette résolution viennent de Centrafrique, notamment de Paoua, où MSF a réalisé des études là-bas pour sur des serpents venimeux qui causent la mort dans cette partie de notre pays. En marge de l'Assemblée mondiale, nous avons fait des rencontres stratégiques importantes, parmi lesquelles les rencontres avec les autorités de l'OMS, du Fonds mondial, de la Banque mondiale et des Nations unies, de l'ONU-SIDA. Nous avons rencontré aussi quelques partenaires humanitaires clés qui opèrent en puissance Afrique.
Un autre volet de cette actualité sur Gira FM, le gouvernement et le HCR recherchent des voies et moyens pour venir en aide aux populations du 6e arrondissement victimes de la dernière pluie diluvienne. Ces derniers vivent dans la précarité. Plusieurs familles sont sans abri depuis au quartier Linguissa, Sapeke et Petevo. On ne dispose pas encore d'un bilan précis, mais tout porte à croire que ce sont plusieurs maisons qui se sont écroulées et le secteur toujours dans l'inondation. Témoignage de Raymond Siadou, l'une des victimes, qui appelle par la même occasion le gouvernement à une action urgente.
La situation est très catastrophique et déplorable. Personne n'est épargné. On voit des familles vraiment dans la détresse. Comme vous venez de constater, il y a cette famille-là qui est dehors avec les enfants, avec les bagages. Elle va aller où? Et dans ma propre concession, il y a eu 5 maisons écroulées. Nous allons faire comment? C'est la construction d'une boulangerie. Au niveau de la fondation, il y a eu la fondation qui était en profondeur et qui ne permet plus à l'évacuation d'eau. Et au niveau du quartier, il y a aussi la population qui se comporte un peu mal en laissant des déchets par-ci par-là, qui bouchent aussi les canaux. Et d'autre part, la conception même des canaux qui ont été réalisés, ça a été mal conçu. Parce qu'il y a refoulement d'eau au niveau du quartier. Ça ne part pas vers le fleuve. Nous pensons que le gouvernement doit réagir promptement. Parce que le quartier ne vient pas de naître. Le quartier naît depuis très longtemps. Et nous voulons à ce que les humanitaires apportent de l'aide et que le gouvernement fasse son travail d'urbanisation.
Contactez les ministres de l'action humanitaire Virginie Baïkwa et son collègue Gabi Franck-Ilefa de l'urbanisme ainsi que les deux députés de ce secteur se sont rendus sur le terrain pour s'enquérir de la situation hier. Écoutons Virginie Baïkwa qui appelle la population au calme.
Je suis venue m'acquérir de la situation. C'est au vu de l'expertise sur le terrain que nous allons voir ce qui a lieu de faire. Vu déjà là au niveau de l'église, je vois qu'il y a l'inondation qui a pris pratiquement toute une étendue. Donc je vais d'abord faire le constat. Il y a mon collègue de l'urbanisme qui est aussi sur le terrain. Je suis ici et il est de l'autre côté. Donc pour l'instant, on va constater qu'est-ce qui est à l'origine. Je pense qu'il faut toujours traiter les choses à la racine. Qu'est-ce qui a provoqué ce dégât? Et que chaque personne puisse prendre ses responsabilités. Donc on va essayer de regarder. La dernière fois, on a eu le même problème de l'autre côté, dans le premier, je crois. Et nous avons réglé parce que nous savons que le problème était à un endroit précis et ce problème a été réglé. Donc si c'est une construction qui est à l'origine, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Je peux comprendre la douleur, mais nous sommes là sur le terrain. C'est pour dire qu'ils ne sont pas seuls et que le gouvernement est là, même si... La situation est difficile, nous comprenons, mais je leur demande à être apaisés et je sais que c'est pas facile. Mais nous sommes là pour essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble.
Guira FM, dossier sport.
En sport basketball, le programme de préparation des Fauves connaît depuis samedi un changement indépendant du staff technique. Les Fauves devraient se trouver depuis samedi en Tunisie pour se préparer en vue des éliminatoires autour de la Coupe du Monde de Dakar au Sénégal. Jusqu'à ce matin, les poulains de Gabin Ulrich Marida se trouvent encore à Bangui pour faute de moyens. Le gouvernement, unique sponsor du sport dans le pays, n'a pas encore mis des moyens à la disposition de la fédération. Le championnat de la Ligue de Bangui cette semaine sera réservé exclusivement aux rencontre retard, 4 matchs de la 2e division et 4 de la 1ère division à l'issue de la 11e journée qui a pris fin dimanche dernier. C'est Olympique Real qui occupe la tête avec 22 points. SCAF qui compte 2 matchs en retard totalise 21 points. Estompette Mokaf avec 1 match en retard totalise 19 points. Les Anges de Fatima 16 points avec 2 matchs en retard et Anigré 15 points avec 3 matchs en retard.
L'invité de la rédaction.
Notre invité de la rédaction d'aujourd'hui est le directeur général de l'enseignement. Au micro de Boris Ngouagouni, il nous parle de l'organisation des élections de fin d'année scolaire au titre de l'année académique 2017-2018. Gilbert Selonkwe Feibonazui parle aussi du cas de Bangassou où aucun examen n'a encore eu lieu. Suivant.
Gilbert Selonkwe Feibonazui, directeur général de l'enseignement, bonjour.
Bonjour, monsieur Ngouagouni.
Tout d'abord, où en sommes-nous avec les examens de fin d'année?
Oui, nous avons fait du chemin par rapport au calendrier des examens de fin d'année 2017-2018. Tout a commencé par les épreuves physiques depuis le mois d'avril. Ensuite, il y a eu le CAP. Le CAP étant fini, nous avons entamé le concours d'entrée en 6e et le CF1. Et au même moment, nous avons entamé les épreuves pratiques du BPC et du BPT, entendu brevet d'études de technicien et brevet professionnel comptable.
Concernant les régions, dans toutes les régions, est-ce que vous êtes prêt pour les examens de bac, le BC et les autres?
Comme je vous l'ai dit, le déroulé a déjà commencé. Le déroulé du calendrier se fait concrètement et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons encore pas de difficultés. La seule difficulté que nous avons pour l'instant, c'est l'inspection d'académie du Sud-Est, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas pu avoir les épreuves du concours d'entrée en 6e, du CF1 et du BC.
Justement, concernant Bangassou, pourquoi est-ce que dans toute la RCA, les candidats ont composé les autres examens et à Bangassou, toujours rien?
Vous êtes sans ignorer que l'axe Bangui-Bangassou par voie terrestre est inaccessible. Et nous utilisons nos partenaires de la MINUSCA pour acheminer les épreuves sur Bangassou afin de desservir la zone de Obo, Mobaye, ainsi de suite. Nous avons écrit à la MINUSCA officiellement et nous avons empaqueté les épreuves et les cahiers. Et il est question de faire un programme pour les acheminer. Depuis 2 semaines, nous ne cessons de les harceler, mais eux aussi, ils ont des contraintes. Ils le font par tranche. Ce matin, je suis entré en contact avec nos partenaires de la MINUSCA qui m'avaient dit qu'ils ont pu envoyer déjà les épreuves de Obo. Il reste les épreuves de Bangassou. Ils sont en train de voir la possibilité de mettre ça en route dans la semaine. Et je suis en contact permanent avec l'inspecteur d'académie. Je le rassure que quelles que soient les conditions, les enfants de l'inspection d'académie du Sud-Est vont composer. Ils sont des Centrafricains, il n'y a aucune raison que certains élèves composent et que eux, ils soient marginalisés. Et ils doivent simplement comprendre que l'accès par voie terrestre est impossible. Et nous sommes en train d'utiliser d'autres moyens. Mais n'importe comment, ils vont composer. Ça, je les rassure. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître.
Parlons maintenant du programme de l'année. Est-ce que le programme a été achevé? Est-ce que les enfants sont enfin prêts pour le baccalauréat, par exemple?
Je dirais oui, parce que sur toute l'étendue du territoire et depuis que nous avons démarré, il n'y a pas eu de perturbations. Et comme vous le savez, les perturbations ne viennent que généralement vers la fin de l'année scolaire. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous étions à l'entrée des examens que les hostilités de Bangassou et consorts ont déclenché et nous ont fait des problèmes. Cette année également, dès que nous étions déjà en train d'amorcer les examens, il y a eu quelques poches de tension, comme au kilomètre 5 qui a failli ébranler un certain nombre de choses. Mais heureusement que nous avons su récupérer la situation. On a essayé de faire une délocalisation et de faire un renforcement de capacité pour permettre à ces élèves des écoles du 3e arrondissement de pouvoir composer. Aujourd'hui, c'est le cas de Bambari, mais ça n'a pas empêché que nous avons fait passer un certain nombre d'épreuves. Et nous sommes en train d'observer la tension. Je sais que d'un moment à l'autre, ça va chuter et les enfants pourront composer. Rien ne pourra empêcher les enfants de composer, car même les porteurs d'armes qui sévissent, ils ont des enfants qui ont besoin d'apprendre et de savoir lire et écrire. À ce que je sache, ils ne sont pas contre les enseignants et les élèves. En ce qui concerne ce secteur-là, en tout cas, il y aura des examens. Même à Bangassou actuellement, nous sommes en train d'apprêter des possibilités pour que la MINUSCA achemine les épreuves.
Parlons de la tolérance zéro durant les différents examens en RCA. Peut-on dire que cette politique sera appliquée sur toute l'étendue du territoire centrafricain?
Oui, mais vous savez que depuis l'année dernière, nous avons mis en place une stratégie de manière à ce que ne peuvent être admis que ceux qui le méritent. C'est ce qui a été fait l'année dernière. Et cette année encore, nous sommes en train de visser davantage. Et je sais que la majorité des étapes, c'est-à-dire les espaces temporaires que nous avons créés pour l'apprentissage, est totalement réduit. On en a retrouvé seulement quelques 3 ou 4 à Kagabandoro, encore à Bangassou, mais nous leur avons donné la possibilité de composer au même titre que les autres. Et les mêmes conditions de travail seront partout.
Y compris dans les zones où les groupes armés sévissent.
Tout naturellement. Je puis vous assurer que nous avons donné notre aval pour que tous les enfants en situation difficile s'inscrivent pour les examens sans les frais. Habituellement, quand les examens arrivent, les enfants payent les frais d'inscription. Mais exceptionnellement, pour les enfants en situation difficile, nous les avons exemptés. Mais ça ne veut pas dire que nous les exemptons de la bonne pratique des examens. C'est un examen, si on les organise, c'est parce que nous voulons extraire du lot les meilleurs. Donc, la rigueur demeure de mèche.
Pour terminer, quel est votre message à l'endroit des parents et aussi à l'endroit des candidats aux différents examens?
Oui, depuis l'année dernière, je n'ai cessé de dire aux parents et aux élèves que l'examen, ce n'est pas au bout de canon. L'examen, c'est pas avec l'argent. L'examen, c'est pas avec des relations. Mais l'examen, ce sont les capacités de chaque candidat. Nous avons eu 9 mois de scolarité et chaque élève doit faire l'inventaire. Maintenant, c'est le moment de faire l'inventaire de toutes ses connaissances. S'il est admis, ça veut dire qu'il a bien maîtrisé les enseignements de l'année. S'il échoue, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Il faut simplement combler ce manque-là, il sera admis à la prochaine occasion. Donc, c'est pas la peine que les parents se tracassent à pourchasser les gens avec des enveloppes ou bien que les élèves pensent que c'est parce que mon père est là-bas, mon oncle est là-bas, il y aura des facilités. Je crois l'équipe qui est en place, qui gère les examens depuis l'année dernière, ne baissera pas le bras. La rigueur va être toujours tenue et maintenue jusqu'à ce qu'à un certain moment, les jeunes qui vont prendre le relais soient des jeunes capables de faire le développement de notre pays. Voilà le message que je pourrais donner à tous les candidats et aux parents.
Gilbert Selankoué-Feibonazui, directeur général de l'enseignement, je vous remercie.
Moi aussi je vous remercie, monsieur le journaliste.
Chers amis auditeurs de Guida FM, c'est sur cet invité que prend fin ce journal de ce matin, de ce 5 juin. Sur Guida FM, il est l'œuvre de toute l'équipe de la rédaction à la technique. C'était le service de Jean-Rony Isséna. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure sur Guida FM, les ondes de la paix.